Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, le risque zéro sur la route est-il possible ? C'est une inversion de la courbe qui ne fait pas beaucoup parler d'elle, et pour cause, il n'y a pas de quoi en être fier. Pour la deuxième année consécutive, le nombre de personnes tuées sur la route de France est en hausse. 3464 personnes disparues en 2015, soit une augmentation de 2,4% par rapport à l'année précédente. Du jamais vu depuis 1980. Jusqu'ici, le nombre d'accidents avait plutôt tendance à diminuer. Alors pourquoi ce retour de la mortalité sur la route ? Les usagers, tout comme les pouvoirs publics, auraient-ils relâché leur vigilance ? Sécurité routière, changeons. Simple et efficace, il faut reconnaître à ce slogan d'avoir porté ses fruits après la période noire des années 70 où la mortalité routière atteignait des sommets. Il est vrai qu'à l'époque, ni la ceinture de sécurité ni la sobriété n'étaient des évidences. Mais les comportements à risque sont-ils les seuls responsables des accidents ? Alors qu'une bonne partie de la France a déjà envahi les autoroutes et les nationales en ce mois de mai pour profiter du pont, point d'étape ce soir sur une utopie, celle d'une route sûre à 100%. Le risque zéro sur la route est-il possible ? C'est notre sujet du jour. 4 invités pour en débattre ce soir. Emmanuel Barbe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière depuis avril 2015. La délégation à la sécurité routière, c'est donc une administration qui est rattachée au ministère de l'Intérieur. Votre mission, en quelques mots ?
La mission, c'est tout ce qui touche à la sécurité routière. Donc ça va couvrir à la fois les statistiques, la législation en matière de sécurité routière et évidemment l'éducation routière aussi.
À vos côtés pour discuter, Christophe Ramon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des études et des recherches de l'association Prévention Routière. C'est une association qui a été créée en 1949, une association pionnière, on peut dire, en matière de prévention des risques sur la route. Vous menez de nombreuses campagnes depuis des années et la dernière en date s'intitule « Zéro enfant tué sur nos routes ».
Oui, tout à fait. C'est un manifeste que vous pouvez soutenir sur notre site internet et qui propose 5 choses pour améliorer la sécurité des enfants sur la route. Par exemple, un taux TVA réduit pour les sièges auto, des passages piétons sécurisés avec une bande d'arrêt pour les véhicules qui va permettre de réduire les angles morts. Et puis aussi le développement des zones 30 dans les zones où se déplacent les enfants, la généralisation des systèmes anti-collision sur les voitures, hein, ça arrive sur les nouveaux véhicules, c'est très efficace pour éviter les chocs avec les piétons et les cyclistes. Et puis enfin, une meilleure visibilité des enfants la nuit, notamment avec des bandes rétro-réfléchissantes sur les cartables.
Notre troisième invité est en duplex des studios de France Bleu Sud-Lorraine à Nancy, il s'agit de France Wolf, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du bureau national de la Fédération française des motards en colère. Vous tenez également une école de conduite, auto et moto à Nancy depuis 1988. Et notre dernier invité, il s'agit de Mathieu Grosstead. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue rattaché au laboratoire du CURAP à l'université Picardie Jules Verne à Amiens. Vous êtes auteur de « Accidents de la route et inégalités sociales, les morts, les médias et l'État » aux éditions du Croquant en 2012. Alors comment explique-t-on, Emmanuel Barbe, cette hausse de la mortalité sur la route ? Donc je rappelle, en 2014, une hausse de 3,5%. En 2015, une hausse de 2,4%. On n'avait pas eu 2 années consécutives de hausse de la mortalité depuis les années 80. Que s'est-il passé ?
Ce qu'on peut documenter assez clairement, c'est qu'il y a un relâchement des comportements, très clairement, qu'on voit dans des infractions plus nombreuses et dans les mesures que nous faisons, une augmentation des vitesses moyennes pratiquées sur les routes. Par exemple, en 2015, sur les autoroutes, il y a une légère augmentation de la vitesse moyenne et qui a provoqué 55 morts parce que c'est un côté mécanique. La vitesse est au cœur de la sécurité routière. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce relâchement des comportements ? Ça devient évidemment tout de suite plus compliqué à dire. Je m'empresse de vous dire que c'est certainement pas un relâchement de la volonté du gouvernement. Il y a beaucoup de contrôles sur les routes. On se plaint suffisamment que les radars flashent beaucoup. C'est un phénomène qu'on peut observer dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, par exemple en Allemagne, mais pas dans tous, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc, à ce stade, ce que nous cherchons évidemment au niveau des pouvoirs publics, c'est d'apporter une une réponse rapide. Mais évidemment, il ne faut pas se priver de l'analyse, hein, c'est important.
Alors, avant de débattre sur les causes d'un relâchement des comportements, on va peut-être vérifier si tout le monde fait le même diagnostic. France Wolf, est-ce que vous aussi, vous pensez que, que l'augmentation de la mortalité est due à un relâchement des comportements ?
Plutôt à une baisse de vigilance et au fait que les usagers de la route sont un peu matraqués par des messages qu'ils ne comprennent pas forcément. Ils ont envie de faire bien, mais ils ont l'impression de se faire piéger. Et quand ils se font piéger, ils se relâchent ensuite sur la route. C'est plutôt ce relâchement-là que nous on constate, tout en disant que du côté des motards, cette catégorie d'usagers n'a pas augmenté sa mortalité. Au contraire, elle a continué de baisser. Donc on va pas se réjouir d'un côté pour les uns et pas pour les autres. C'est un problème global. Mais je suis pas sûre que l'augmentation des contrôles et l'augmentation des sanctions arrange le problème.
Christophe Ramon, votre regard aussi sur cette augmentation de la mortalité?
Effectivement, c'est vrai que la hausse de la mortalité concerne surtout les automobilistes. Hein, c'est vraiment eux qui décèdent le plus aujourd'hui sur les routes. C'est assez étonnant parce que on sait qu'avec les nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché, ce sont des véhicules plus sûrs, donc ça devrait être bénéfique pour la sécurité des automobilistes. Alors nous, on a une explication, hein, c'est qu'il y a un vrai problème d'égalité devant la loi aujourd'hui. Vous, en tant qu'automobiliste, aujourd'hui, on peut s'équiper avec des systèmes électroniques qui vous indiquent l'emplacement des forces de l'ordre, l'emplacement des radars, et qui vous permet, pour beaucoup d'automobilistes, qui permet d'accélérer entre deux points de contrôle. On pense qu'il y a un vrai problème lié à ces technologies.
Vous voulez dire que l'apparition des GPS qui signalent les radars et les réseaux sociaux aussi qui permettent de communiquer, répandre l'information sur la situation des radars, ça c'est un facteur explicatif de la hausse de la vitesse et donc des accidents mortels ?
Oui, tout à fait. Hein, les avertisseurs de radars, de forces de l'ordre communautaires, c'est-à-dire que l'automobiliste signale la présence de policiers sur le bord de la route, ça, c'est des millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et donc, c'est un vrai phénomène de masse. Et on le voit, hein, des personnes qui utilisent des systèmes qui ne sont pas à 100% fiables, ces personnes-là, quand elles vont être prises par les forces de l'ordre, vont être prises pour des grands excès de vitesse, par exemple. Et on le voit qu'il y a une très forte hausse des grands excès de vitesse en 2014. Voilà, ça c'est vraiment inquiétant.
À l'été 2015, Manuel Valls appelait à la mobilisation et à la prise de conscience de chacun. Le regard du sociologue Mathieu Grosstedt, comment est-ce qu'on fait la part des choses entre ce qui relève de la responsabilité individuelle et ce qui relève de l'ensemble de la société?
Alors, peut-être avant de répondre à votre question, il me semble pertinent de rappeler que les groupes sociaux ne sont pas égaux devant la probabilité d'être exposés à un accident corporel de la circulation. Et que finalement, la mortalité routière, elle frappe de manière socialement sélective pour concerner en premier lieu les classes populaires qui sont d'ailleurs celles qui se déplacent le moins et pourtant celles qui meurent le plus de leur trajet quotidien. Donc, fort de cette connaissance sociologique du phénomène, j'aurais tendance à faire l'hypothèse que, en ces temps de crise économique, cette augmentation du nombre de décès routiers, elle renvoie donc à la précarisation accrue des classes populaires, dans la mesure où leur contribution à la mortalité routière, elle peut aussi être vue comme un indicateur pertinent de leurs conditions matérielles et symboliques d'existence. Donc, alors, évidemment, j'ai pas produit de données nouvelles sur ce point, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait calculer. Hein. Il faudrait pour ça mesurer l'évolution de leur contribution à la mortalité routière avant et après le début de la crise de 2008, sur des périodes comparables par leur amplitude, pour justement voir si cette surmortalité, elle renvoie justement à une précarisation plus importante.
Très concrètement, Mathieu Grosstedt, si on est un homme jeune, de milieu ouvrier et qu'on vit dans une zone rurale, on a plus de chances de mourir sur la route ? Plus de probabilité.
Oui, absolument. Les fractions juvéniles, hein, de la catégorie ouvrier et rurale également sont très largement surreprésentées dans les accidents corporels de la circulation. Alors, à titre d'exemple, hein, j'ai montré dans le livre, à partir des données de l'année 2007, qui est la seule pour laquelle j'ai pu disposer des données nationales, que par exemple, 22% des conducteurs décédés sur la route, hein, étaient des ouvriers, alors que le groupe ouvrier ne représente que 13% dans la population française de 15 ans et plus. Ce chiffre grimpe même à 30% chez les moins de 30 ans.
Est-ce que c'est des données que vous prenez en compte dans les politiques de prévention et politiques de sécurité routière, Emmanuel Barbe ?
Directement comme cela, non, parce que c'est vraiment un travail sociologique. Maintenant, il est clair que dans la catégorie des jeunes, c'est vrai que certains types d'études, c'est les préfets le savent bien, on a des jeunes dans des lycées professionnels qui souvent s'exposent plus aux risques et par ailleurs ont des pratiques professionnelles qui sont aussi risquées, donc dans lesquelles il y a un effort particulier qui est fait en matière d'éducation routière. Après, il est certain aussi que l'état du véhicule, qui est quand même un facteur économique, qu'on le veuille ou non. Vous savez qu'aujourd'hui, le parc se renouvelle assez lentement. Il est en moyenne 9 ans d'âge. Et l'âge moyen de l'acheteur neuf de véhicules, c'est 53 ans. Donc, vous voyez bien qu'il y a un facteur économique à partir de là qui est très important. Donc, on le prend en compte sous ce prisme-là. Mais naturellement, nous avons des statistiques qui sont peut-être un peu plus genrées pour le compte. Ça, on en dispose plus facilement. Ici, il y a un travail d'un sociologue qui doit aller faire des mesures extrêmement complexes et que nous ne faisons pas. Mais c'est une approche qui est intéressante, bien entendu, et qui mérite d'être prise en considération, notamment pour savoir où faire porter l'effort.
On va revenir sur les ciblages des politiques de prévention. Un autre sociologue, Emmanuel Pagès, dit lui que l'incertitude sur l'avenir, donc la précarité, le chômage qui augmente depuis la crise, nous amènerait à moins nous préoccuper et de notre existence et du coup à prendre des risques. Est-ce que en gros il peut y avoir un effet de la crise économique sur la mortalité? Mathieu Grosset.
En fait, il y a beaucoup de travaux qui montrent que la précarité, elle raccourcit l'horizon temporel. Elle transforme le rapport au temps et de ce point de vue, il est prévisible qu'on prenne plus de risques dès lors qu'on a moins de choses à perdre en cas d'accident. Dans le contexte actuel, qui est marqué donc par un chômage de masse, les raisons collectives d'exister, elles se délitent et elles ne protègent plus certaines catégories de population des risques et de certains mécanismes d'autodestruction notamment.
France Wolf, votre regard à la fois de motarde et puis de directrice d'auto-école sur ces questions?
Oui, c'est alors les motards pour le coup, ils sont une catégorie à risque à eux seuls et qui représentent toutes les catégories socio-professionnelles. C'est difficile de dire si la précarité ambiante conduit à prendre plus de risques. Par contre, ce qui est sûr, c'est que excusez-moi, je suis un peu perdu. Ce qui est sûr, c'est que les risques pris sont pas forcément conscients. C'est-à-dire que quand on monte sur sa moto ou quand on prend sa voiture pour aller au travail, on prend pas la décision de prendre des risques. On se retrouve dans des situations qui peut-être n'ont pas été enseignées ou ne sont pas connues, qui font qu'on se retrouve à prendre des risques. Je crois que les messages qui doivent être envoyés aux gens doivent porter plus sur leur formation et sur leur manière d'appréhender le véhicule qu'ils utilisent que sur le risque qu'ils prennent par rapport à une infraction et par rapport à l'amende qui pourrait s'en suivre. Le message serait plus compris s'il était délivré de cette manière-là.
Emmanuel Barbe, je vous vois froncer les sourcils.
Non, ce que je veux dire, c'est que naturellement que la part de l'éducation est majeure, elle est fondamentale. Tout simplement, coutume de dire que j'aimerais pas vivre dans une société qui pourrait mettre un policier dans chaque voiture. Donc, si on n'a pas quelque part une éducation qui va faire en sorte que le risque est mesuré, prenez une chose toute bête, en 2015, enfin toute bête, mon expression est particulièrement mal choisie, il y a 255 personnes qui sont mortes parce qu'elles n'étaient pas attachées. C'est difficile de le comprendre et on voit bien ici que si on arrive à faire comprendre la raison de la règle à chacun, c'est beaucoup mieux que la sanction, parce que on pourra jamais être là à tout moment où une personne doit s'attacher ou elle ne le fait pas. Après ça, ce qu'a montré quand même le développement de la voiture, etc., c'est que pour multiplier des contrôles sur la vitesse, qui, je le répète, reste le facteur majeur de l'accidentologie, puisque c'est la vitesse qui fait que vous aurez ou non un accident, et c'est la vitesse qui va conditionner la gravité de l'accident, et bien là, c'est vrai qu'on a multiplié les contrôles grâce au radar et qu'ils ont eu un effet manifeste qui tend à s'émousser pour les raisons qu'a dit Monsieur Ramon, c'est-à-dire c'est vrai que ces applications communautaires jouent certainement un rôle très négatif, ça j'en suis totalement convaincu et d'ailleurs on va essayer de travailler dessus. Et puis aussi parce que nos radars sont trop connus, donc les gens qui font le trajet quotidien de chez eux au travail et vice-versa ont tendance en effet à savoir où ralentir, donc il faut qu'on développe une stratégie, c'est ce qu'on est en train de faire, non pas de pour flasher plus, parce que le but est certainement pas de verbaliser plus les gens, mais de leur faire penser qu'ils peuvent l'être beaucoup plus souvent. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, notamment en développant des systèmes de leurre qui permettent, encore une fois, de pas plus verbaliser, mais de donner la crainte d'être plus verbalisé. Le fait est que ça marche jusqu'à un certain point, je suis d'accord avec vous, mais il faut le faire. Et on peut pas, en parlant de sécurité routière, s'abstraire quand même de la responsabilité individuelle, qui est parce qu'on met pas qu'en jeu sa propre vie quand on est sur les routes, on met en jeu celle de ceux qu'on transporte et surtout celle des autres qui ne demandaient pas à vous croiser.
Et Emmanuel Barbe, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le champ de la route, la sécurité routière, est un des domaines les plus réglementés de la société ?
Je suis incapable de vous le dire parce que il faudrait faire une analyse respective, mais en réalité les règles à respecter sur la route sont assez peu nombreuses et elles sont simples, et j'ai envie de la résumer à une, c'est le respect. Et donc il y a quelques règles de vitesse, quelques règles de priorité, il ne faut pas se baser sur la taille du code de la route qui régit des milliers de choses qui n'ont pas à être connues de l'automobiliste.
Christophe Ramon, vous avez l'impression qu'on a une marge de manœuvre encore dans la coercition, dans la sanction, dans la réglementation des comportements sur la route? On peut aller plus loin?
On peut aller plus loin, certainement, sur le contrôle de l'alcool et le traitement des conducteurs qui ont été pris avec de l'alcool. On peut aller plus loin sur les drogues aussi, mais on peut surtout progresser sur le reste, hein, sur l'ensemble de la route, notamment sur les véhicules.
Ce qui ne relève pas de la responsabilité individuelle pour le coup, l'infrastructure.
En fait, c'est une responsabilité qui est partagée entre tous les acteurs, à la fois les gestionnaires de voiries, les constructeurs automobiles, les usagers, les organisateurs de transport. C'est vraiment une responsabilité qui est à partager.
France Wolf, même question. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans les mesures de réglementation ?
Ben, pour enseigner le code de la route, je pense que ce qu'il y a déjà à apprendre, c'est largement suffisant. C'est pas tellement un problème de règles et de les apprendre. Le problème, c'est de les comprendre. La meilleure des obligations, c'est celle que vous allez vous imposer à vous-même parce que vous avez compris qu'elle était nécessaire, voire vitale. Après, apprendre des règles, empiler les unes sur les autres pour répondre à des questions, pour avoir un examen et puis tout oublier après, ça n'a pas tellement d'intérêt. Je pense que le code de la route en lui-même, il n'est intéressant que par les conséquences qu'il a après sur la compréhension qu'on en a quand on utilise son véhicule sur la route, mais pas la règle juste pour la règle. C'est pour ça que quand on fait un rappel à la règle dans une annonce, par exemple, de prévention ou de sécurité routière, c'est un peu dommage. Il vaudrait mieux faire une annonce qui explique quel est le risque encouru, le risque pour la personne et pour les autres autour, plutôt que le risque pour son porte-monnaie ou pour les points de son permis de conduire.
Si t'as le fait, le coup de lève-le-pied, faut choisir à quoi carburer, c'est à l'essence qu'on roule en France.
Si t'as levé le coude, lève le pied. C'est une chanson qui a été composée par le chanteur Antoine en 1971. Elle a été reprise en 72 par l'antenne de Clermont-Ferrand de l'ORTF dans une campagne de prévention. Vous connaissiez cette chanson, Emmanuel Barbe ?
Non, je la connaissais pas, mais vous savez que le domaine de la communication en matière de sécurité routière est très vaste. Il y en a aussi dans le monde entier qui sont parfois très réussis. Après, est-ce qu'elle porte effet, c'est une autre affaire.
Alors, dans les années 70, voilà, si t'as levé le coude, lève le pied, donc il s'agissait pas, on n'était pas encore dans le message de dire pas d'alcool au volant, simplement réduisez un petit peu la vitesse si vous avez eu un repas trop arrosé. La prévention, c'est forcément une politique des petits pas, c'est-à-dire qu'on peut pas imposer d'un coup et la ceinture et la réduction de l'alcool, etc. On est obligé d'aller progressivement. Christophe Ramon.
La sécurité routière a commencé par de nombreuses mesures très fortes, hein, sur les limitations de vitesse, la ceinture et l'alcool. Donc ça s'est fait quand même assez brutalement. Après, c'est vrai que on a 40 ans aujourd'hui de lois, de nouvelles mesures qui améliorent petit à petit le bilan des accidents de la route, hein. C'est environ moins 3 à moins 3,5% de tués sur la route chaque année en moyenne.
Est-ce qu'on peut parler de résistance quelque part aussi des usagers, Franz Wolf, à s'appliquer des mesures qui fondamentalement vont à l'encontre de certaines libertés?
Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Par contre, quand il y a eu cette prise de conscience là, dans les années 70, forcément les progrès à faire étaient énormes. Les solutions qui ont été proposées, qui ont été mises en place, ont forcément donné des résultats qui ont été visibles tout de suite. Et puis là, maintenant, on arrive un peu en butée, c'est-à-dire qu'on est certainement arrivé là où toutes ces choses-là peuvent avoir de l'effet et qu'il faut peut-être maintenant envisager de trouver d'autres solutions pour que la prise de conscience soit différente. Les résultats rapides et spectaculaires, c'est fini. Maintenant, on va pouvoir progresser sur de petits éléments et avoir des résultats qui seront moins évidents. Et c'est peut-être aussi pour ça que ces deux dernières années, on est sur une reculade qui est peut-être plus une stagnation quand on voit les chiffres. Peut-être que là, la politique de sécurité routière, elle doit être pensée autrement et avec les usagers pour qu'ils puissent s'emparer de ces enjeux-là et pas se sentir victime ou piégé par les enjeux de sécurité routière.
Se sentir victime ou piégé, ça c'est une sensation que vous avez ou que d'autres personnes dans votre entourage, à la Fédération française des motards en colère par exemple, ont?
C'est ce qu'on entend souvent, hein. Je me suis fait piéger, je me suis fait avoir au radar, alors que derrière il y a bien d'autres choses. Je veux dire, s'il y a eu un dépassement de vitesse, et il y avait peut-être une bonne raison, mais surtout il y avait quelque chose qui n'avait pas été compris dans l'environnement. C'est-à-dire que sur la route, il y a quelque chose qui a été mal analysé. Je veux dire, les gens ils montent pas dans leur voiture ou sur leur moto en se disant je vais faire des excès de vitesse. Juste, ils sont dans un environnement qui n'arrive pas forcément à décrypter. Et si à cet endroit-là il y a un radar, et ben ils ont l'impression de s'être fait piéger parce qu'ils n'ont pas compris. Et je suis pas sûre que quand ça fonctionne comme ça, après ça leur serve à quelque chose.
Parmi les mesures qui sont éventuellement en discussion, il y a l'idée de baisser la limitation de vitesse sur les nationales, alors aujourd'hui qui sont à 90 km/h, passer à 80 km/h. On entend que ça pourrait sauver 400 vies par an. Christophe Ramon, est-ce que ça c'est un point sur lequel vous faites pression sur les pouvoirs publics pour qu'on abaisse encore la limite de vitesse?
Notre position, c'est plutôt d'adapter la limitation de vitesse à l'infrastructure. C'est pas tant le fait que ce soit une route nationale ou une départementale. C'est vraiment le niveau d'équipement de la route qui doit faire qu'on va mettre une limitation à 90, 80 ou 70. Aujourd'hui, on a les conseils départementaux ont le choix sur leur route. Hein. Ils peuvent mettre du 70 là où c'est nécessaire.
Emmanuel Barbe.
Bon, d'abord, faut toujours se méfier quand on dit que telle mesure réduirait de tant de morts. C'est très empirique. Je pense qu'il faut être attentif quand on fait des politiques publiques au fait de pas créer une règle qui va être massivement violée, parce que sinon, alors ça affaiblit beaucoup la position de la loi et des pouvoirs publics. On fait des expérimentations actuellement dans 4 départements. Alors, bon, ça fait peu de kilomètres, ça a été critiqué. Moi, je pense que c'est suffisant, et l'an prochain on pourra avoir une étude assez fine qui sera faite là-dessus pour se faire une idée. Moi je le répète, je crois que si déjà on arrive à faire baisser les moyennes des vitesses sur nos routes, on aura gagné une grande partie des choses. Et je pense que au moins une chose qu'il faut reconnaître, c'est que quand on observe une augmentation même légère sur l'autoroute de vitesse, on a eu plus de morts, quoi. Donc il y a cette corrélation. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut tenir compte aussi des modes d'urbanisation, du fait que beaucoup de gens ont besoin de leur voiture ou de leur moto pour aller travailler, etc. Donc il faut plutôt essayer de faire respecter les règles telles qu'elles sont maintenant, sachant que la bonne vitesse, c'est quand même celle qui est adaptée, hein. C'est pas celle qui est sur le panneau. Hein.
Voilà. Les messages de prévention routière cette année ont choisi de mettre l'accent sur les conséquences pour les proches des accidents mortels. C'est plus efficace. Pourquoi? Pourquoi ce choix, Emmanuel Barbe?
On a essayé de faire un peu un message d'alerte par rapport à cette remontée de la mortalité sur nos routes, en essayant de montrer qu'au fond, tous les enjeux qui parfois animent très très violemment, d'ailleurs la presse autour de la sécurité routière, sont quand même dérisoires par rapport aux conséquences. Et ces conséquences, elles s'étendent bien au-delà de ceux qui sont protagonistes de l'accident. Et donc on a trouvé que c'était intéressant, d'autant que vous l'aurez noté, bon, je rejoins assez ce que disait Franz Wolf tout à l'heure, on n'a pas cherché à incriminer une cause ni à rappeler la règle. On a juste dit c'est ça un accident de la route. Et moi je m'approprie volontiers le terme de violence routière, c'est-à-dire que nous luttons contre la violence de la route. Et c'est vrai que si certains techniquement ne veulent pas créer de la violence routière, ils ont des comportements par moments qui font qu'ils l'assument totalement. Et de ce point de vue-là, je vais juste reparler par rapport au risque. Quand même, comment on explique par rapport à l'incertitude de l'avenir les courses cannonball que nous voyons souvent, qui sont des milliardaires anglais qui descendent et traversent la France le plus vite possible avec des bolides. Et c'est des comportements très fréquents, de la même façon que j'ai vu à la télévision l'autre jour un monsieur qui avait une voiture très puissante et qui expliquait comment, grâce au détecteur de radar, il roulait constamment à 200 km/h. Donc vous voyez bien que je pense que l'explication sur la peur du futur, elle me convainc à moitié. Et au reste, je le répète, c'est vrai qu'on sortira pas quand même à un moment donné d'aller chercher la responsabilité individuelle de chacun. Voilà.
Concernant les motards, la dernière campagne également dit à moto, le plus grand danger, c'est de penser qu'il n'y en a pas. Sous-entendu un peu que le motard n'aurait pas conscience du danger. Comment vous avez pris ce slogan, France Wolf?
Ouais, c'est comme cette formule un peu incantatoire qu'on entend tout le temps quand on parle de l'accidentalité des deux roues motorisées. Hein, il représente 2% du trafic et 22% des tués. Alors si ça doit servir à mettre en exergue leur fragilité, bah ok. Mais si ça sert à montrer que le deux roues motorisé c'est super dangereux et qu'il faut pas en faire, là pour le coup on n'est plus d'accord. Donc après c'est cette manière dont les messages de sécurité routière peuvent être reçus d'une manière positive ou d'une manière négative. Là, cette publicité, elle était vraiment pas mal. C'est vrai qu'il faut être conscient du risque quand on prend la route, que ce soit sur un vélo, même à pied, ou que ce soit sur une moto ou sur une voiture. C'est mieux d'être conscient du risque. Mais c'est bien aussi de se dire qu'on va pas mourir forcément sur la route.
Vous voulez dire que qu'on peut prendre la route, pardon, doit rester un plaisir.
Voilà, de se dire qu'on peut prendre du plaisir aussi à se déplacer d'un point A à un point B, même si c'est pour aller au travail, d'avoir envie de faire de la route avec sa famille pour aller se promener. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que le deux roues soit présenté d'une manière qui est positive, parce qu'on se rend compte quand on valorise un moyen de déplacement, il est pris en compte d'une autre manière par les autres usagers qui le découvrent ou qui le redécouvrent, et sous un plan positif. Et ça peut aussi améliorer la prise en compte des deux roues motorisées. Et ce que nous, on appelle de nos voeux, c'est-à-dire un vrai partage de la route qui serait enseigné et pratiqué au quotidien. Ça pourrait améliorer l'accidentalité des deux roues motorisées, oui.
Sur la question des campagnes de prévention, Mathieu Grossiette, vous nous disiez tout à l'heure que les classes populaires statistiquement étaient plus touchées par des accidents mortels. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les campagnes de prévention sont assez en direction des gens qui sont les plus vulnérables ?
Alors, en tout cas, moi, pour la période que j'ai analysée, qui s'étale de 1998 à 2005, ce que j'ai constaté, c'est qu'elles sont plutôt adressées aux groupes sociaux qui sont les moins exposés aux accidents, hein, puisque les composantes masculines, populaires et rurales des classes populaires sont remarquablement absentes des campagnes que j'ai analysées.
Quand vous dites absente des campagnes, c'est-à-dire dans les personnes qui sont représentées,
c'est-à-dire
dans les clips par exemple,
et y compris dans le mode de vie, hein, c'est-à-dire l'environnement, le type de route, et à l'inverse, ces campagnes, elles mettent plutôt en scène des catégories de population qui sont particulièrement intégrées socialement et qui ont donc une probabilité de mourir sur la route qui est très faible. Donc elles mettent en scène des urbains, des familles, des couples, des propriétaires de résidences secondaires ou encore des porteurs de costumes trois pièces. Donc évidemment, tout ça, c'est des
qui sont aussi des personnes touchées par les accidents de la route.
Oui, mais qui sont sous-représentées, hein, puisqu'il faut savoir que, par exemple, les cadres représentent moins de 3% des tués, alors qu'ils regroupent près de 8,4% de la population de 15 ans et plus en France. Et donc, j'aurais tendance à penser, en tout cas pour ce qui est de la période que j'ai analysée, hein, qui s'arrête en 2005, que ces campagnes, elles ont tendance à rater leur cible, hein, c'est-à-dire à s'adresser à des populations qui ont une probabilité d'être accidentées qui est très faible.
Christophe Ramon pourrait améliorer les statistiques en ayant des campagnes beaucoup plus ciblées sur les personnes à risque.
Alors, en ce qui nous concerne, on mène beaucoup de campagnes auprès des 18-25 ans. Parce qu'ils sont particulièrement touchés par les accidents.
Donc plus une question d'âge qu'une question de classe sociale ou de lieu de vie.
Oui, tout à fait. On prend l'âge, on cible les garçons, les filles, parce que c'est une responsabilité collective, c'est-à-dire que les jeunes se déplacent en groupe et c'est pas uniquement la responsabilité du seul conducteur. Voilà. Donc on mène beaucoup de campagnes avec Assureur Prévention notamment.
Manuel Barbe.
Non, mais je pense que, bon, d'abord, je me retrouve pas très bien là dans ce que vous écrivez. Je pense qu'on a évolué. Nous, on a beaucoup ciblé les jeunes. Bon, évidemment, comme on fait des campagnes nationales, on est obligé d'avoir des catégories extrêmement larges, mais on cible évidemment beaucoup les jeunes. Et en ce qui concerne les deux roues motorisées, moi, je tiens à dire qu'on a pris aussi beaucoup de mesures en faveur des motards et qu'il n'y a aucune espèce d'intention de dire qu'il ne faut pas faire de moto. Mais c'est vrai que, bon, moi, il se trouve, je suis motard, je suis venu en moto là et j'ai vu tellement de gens qui ne sont pas protégés, qui font là, il fait beau, alors ils sont en short, etc. Alors là, quelque part, ça fait froid dans le dos aux responsables de politique publique que je suis, parce que qu'on voit bien qu'ici, il y a une insuffisante prise en compte du risque, même voire un rejet du risque. Et c'est là qu'il faut évoluer. Maintenant, le deux-roues motorisé, c'est un fait social. Et surtout dans les grandes villes, de toute façon, il est très utilisé. Donc notre travail, c'est certainement pas de le dissuader, c'est juste de faire en sorte qu'il soit une pratique plus sûre. Alors c'est vrai que, et par ailleurs, je voulais juste ajouter un dernier point sur le site de la sécurité routière. Vous verrez qu'il y a beaucoup de témoignages de jeunes qui ont été accidentés et vous verrez qu'on ne montre pas spécialement des catégories sociales privilégiées. Je crois au contraire qu'on est, on a essayé d'avoir des cibles tout à fait objectives, des gens qui ont voulu témoigner de leur accident, de ce qui se passait, et donc je vous invite à aller les voir parce que vous verrez que mon avis c'est assez représentatif justement des constatations que vous faites.
Est-ce que la voiture automatique, la voiture sans conducteur, ce sera peut-être la voiture de demain? Est-ce que ça signera enfin la fin des accidents? Est-ce que le risque zéro, on ne l'aura pas avant la voiture automatique?
Alors pour dire la vérité, si c'est à moi que vous donnez la parole, je pensais que vous alliez m'interroger beaucoup plus là-dessus parce que c'est effectivement, donc aujourd'hui on estime qu'il y a 90% des causes d'accidents qui sont liées à des défaillances humaines, de comportements globalement, mais en tout cas humaines. Et c'est vrai qu'on estime, on peut penser qu'avec le véhicule autonome, à échéance de 25 ou 30 ans, on pourrait avoir supprimé beaucoup de ces causes humaines. Après, ça pose beaucoup d'autres problèmes, de savoir comment on programme ces véhicules, mais il y a certainement ici un gisement en termes de sécurité routière qui est considérable. Et d'ailleurs, ce que disait M. Ramon à l'instant, c'est que d'ores et déjà aujourd'hui, il y a des moments où c'est la voiture qui freine à votre place. Si elle voit que vous allez percuter un piéton, que vous n'avez pas entamé le freinage suffisamment vite, la machine prend la décision de freiner et ça fait partie des 5 étoiles Euro NCAP d'une voiture sûre. D'accord ? Donc ça va se développer de plus en plus. On a des voitures d'ores et déjà qui arrivent à détecter des piétons qui surgissent du côté la nuit, qui vont les éclairer, qui vont vous montrer les panneaux, qui vont être capables de vous ralentir. Donc tout ça va jouer. Maintenant, il faudra du temps. Il faudra du temps. Et là aussi, on peut s'interroger de nouveau sur le temps aussi, sur à quel moment ceux qui ne seront pas dans ce système pourront y accéder. Et ce sera la difficulté. Mais incontestablement, ça va changer beaucoup, mais pas tout de suite. On est encore au début. Hein, faut être conscient de ça.
Franz Wolf, c'est un phénomène auquel vous vous préparez dans les auto-écoles?
Dans les auto-écoles, non, on n'en est pas là, on n'est même pas encore à l'électrique, donc vous voyez, on avance tout doucement. Par contre, du côté des motards, du côté de la Fédération française des motards en colère, on s'y intéresse un peu pour s'en inquiéter.
Parce c'est sûr que la moto automatique va peut-être perdre un petit peu d'intérêt.
Voilà. Non, mais c'est surtout que c'est pas possible d'automatiser complètement une moto alors que peut-être ça l'est pour une voiture. Mais déjà à l'heure actuelle, tous les systèmes qu'on appelle intelligents et qu'on met à l'intérieur d'une voiture, ça tend à distraire le conducteur de ce qui devrait être son action principale, c'est-à-dire la conduite et l'intérêt de ce qui se passe autour de lui. Maintenant, les distracteurs de conduite, c'est comme ça qu'on les appelle. Ça empêche de regarder dans ses rétroviseurs. Pourquoi le faire? Puisque de toute façon, il y aura un bip qui me dira s'il y a une moto à côté. Et nous, en moto, on est très sensible à ça parce qu'on en est victime. C'est-à-dire qu'on voit arriver le truc, on voit la personne qu'on dépasse qui ne regarde pas dans son rétroviseur. Alors, une voiture entièrement automatique sans conducteur, Nous, ça va pas dans le sens de nous rassurer. ça va plutôt dans le sens de nous inquiéter. Et puis ça sera pas possible pour les motos. Donc monsieur Barbe, il vient de dire que l'idée c'était pas de dissuader les gens de faire de la moto. Moi, je suis bien contente de l'entendre parce que des fois on en a un peu l'impression quand même.
Parce que madame Wolf oublie toutes les mesures qu'on prend en faveur des motos pour ne s'attarder que sur celles qu'elle pense hostiles aux motos. Voilà. Mais bon, on a un débat très constructif ce soir.
Une réponse France Wolf.
Non, mais c'est comme dit Monsieur Barbe, hein, c'est peut-être pas le moment d'avoir cette discussion-là. Mais c'est vrai que quand on ajoute des règles aux règles, ça peut dissuader certaines personnes, oui.
Christophe Ramon, vous vouliez réagir sur la question de l'automatisation rapidement.
Tout à fait, je suis pas tout à fait d'accord avec Madame Wolf. C'est-à-dire que en fait, les technologies automatiques liées à la sécurité existent déjà dans les nouveaux véhicules. C'est à la fois le freinage automatique, la reconnaissance des obstacles, le fait de rester sur sa voie et de pas sortir de la route, le fait de voir la nuit, de reconnaître les panneaux. Tout ça, ça existe sur des véhicules. Et d'ailleurs, Volvo annonce des véhicules en 2020 qui n'auront plus de tués à l'intérieur du véhicule. Donc il y a un vrai engagement des constructeurs sur le sujet et ça va venir très vite, on aura une vraie rupture. Pour les motos, on ne sait pas comment seront les motos dans 10 ans. Hein. Aujourd'hui, on commence à s'apercevoir que les motos qui sont équipées d'un ABS réduisent énormément le risque d'accident. Donc il y a aussi de très grandes marges de progrès pour les motos.
Donc l'automatisation, une chance ou une illusion pour la sécurité routière. Mais je vous propose qu'on se redonne rendez-vous dans quelques années quand elles seront sur le marché pour continuer d'en discuter. h 56 sur France Culture. Comme chaque vendredi, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les pages débat de l'Obs. Et ce soir, c'est avec vous, Marie Lemonnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et cette semaine, il est question de surveillance sur Internet.
Alors, pensais plutôt qu'on allait aborder le sujet de Fethi Ben Slama sur le surmusulman.
Alors, il y a beaucoup de choses dans les pages débat de l'Obs, donc sur Fethi Ben Slama.
Exactement, qui faisait l'ouverture de nos pages. Alors, on sait que depuis la création de Daesh et les attentats en Europe, un débat s'est enclenché pour savoir s'il fallait ou pas dire que le djihadisme avait un lien réel avec l'islam. Le psychanalyste Fethi Ben Slama, lui, tranche le débat à sa manière, puisqu'il estime que le monde musulman a effectivement enfanté son monstre, exactement comme d'autres civilisations ont fabriqué le leur en leur temps, et il invite les musulmans à le reconnaître pour mieux le combattre. C'est donc à cette fabrication du monstre qu'il réfléchit dans un essai percutant et stimulant qui s'intitule « Un furieux désir de sacrifice » et qui sortira le 12 mai aux éditions du Seuil. Et l'interrogation qui est au départ de sa réflexion est la suivante. Comment penser le fait que tant de jeunes veuillent se tuer et tuer au nom de l'islam? Quel est ce désir d'autosacrifice? Par quelle immense force d'attraction sont-ils conduits à mourir ainsi? À partir de cette question forte, Ben Slama nous amène à nous pencher sur ce qui agite l'inconscient du monde musulman dans son ensemble. Et son point de vue a ceci de passionnant, qui se situe à la fois sur le plan de la psyché individuelle et collective. Effectivement, le psychanalyste se base à la fois sur son observation clinique, dans son cabinet de Seine-Saint-Denis, où il a vu des musulmans devenir soudain torturés à l'idée de ne pas être assez musulmans, rongés par la culpabilité et un désir de retrouver une dignité perdue. Ceci finissait d'ailleurs par adopter la revendication d'une justice identitaire. Et d'un autre côté, il a étudié l'histoire d'un monde musulman qui est déchiré depuis plus d'un siècle par des guerres externes et par des guerres internes, qui divisent grosso modo pro et anti-lumière, et aussi développé depuis la fin du califat ottoman, cet islamisme qui ne cesse d'agiter le motif de l'idéal islamique blessé comme le lieu d'un appel à la réparation, voire à la vengeance par la religion. Alors pour décrire ce surmoi du monde musulman, travaillé par presque 100 années d'islamisme, Fethi Ben Slama propose à notre réflexion la figure du surmusulman. Le surmusulman qui est donc à la fois une tendance qui consiste à vouloir être plus musulman que l'on est et sortir d'un sentiment de honte par un excès de ferveur religieuse, qui peut aussi trouver des incarnations concrètes comme celle du salafiste hein, qui veut être plus musulman que musulman, ou encore celle du djihadiste hein, qui en est évidemment la version la plus extrême.
Et bien donc un entretien exclusif avec Fethi Ben Slama, le surmusulman et la mort, à retrouver donc dans les pages débat de l'Obs. Et l'Obs donc aujourd'hui qui a mis en couverture cette semaine l'homme qui fait trembler la planète. Il s'agit de Kim Jong-un. Merci beaucoup Marie Lemonnier. On retrouve l'Obs vendredi prochain.
Je vous en prie.
Merci beaucoup à nos quatre invités d'avoir participé à la discussion de ce soir. Le risque zéro sur la route, est-il possible? C'était notre sujet. Merci à vous, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Christophe Ramon de l'association Prévention Routière. France Wolf, membre du bureau national de la Fédération française des motards en colère. J'en profite pour remercier les équipes des studios de France Bleu Sud Lorraine à Nancy. Et merci à vous, Mathieu Grostet, sociologue. Je rappelle votre ouvrage qu'on trouvera aussi sur le site Accident de la route et inégalité sociale, les morts, les médias et l'État, aux éditions du Croquant en 2012. À noter pour poursuivre la réflexion, le pixel de cette semaine, le dossier multimédia en ligne est consacré cette semaine à la place des piétons dans la ville. Commentaires, réécoute, podcast, c'est sur notre site franceculture.fr. Du grain à moudre, une émission préparée par Antoine Dulster, Fanny Richer, Mathilde Barbier, Cyril Baer et Hugo Florent. Réalisation Anna El Fakir, prise de son Jacques Hubert. Lundi, c'est Hervé Gardette que vous retrouverez au micro du grain. La convergence des luttes est-elle compatible avec la divergence des buts? C'est la question qui sera débattue. En attendant, il est 19h sur France Culture. Tout de suite, c'est ping-pong avec vous, Mathilde et Martin. Bonsoir.